Radio Stable.
Morning Edition from NPR
News. Radio Rosana Piperino.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes très haïtiens, ça nous fait plaisir. L'escale sonore d'un jour dans le monde vous emmène sur l'autre route des migrants, celle qui va d'Haïti jusqu'au Québec. Et vous verrez à quel point elle est semée d'embûches, cette route. On parle aussi du départ de la MINUSTA d'Haïti. Les casques bleus s'en vont après 13 ans de présence très controversée. Nous sommes aussi ce soir à la Foire internationale du livre de Francfort. La France, vous le savez, en est l'invité d'honneur. Et vous verrez que c'est là que se nouent les futurs best-sellers. 18h55, la chronique du journal Le Monde avec Corinne Laine et l'onde de choc de l'affaire Weinstein, la revanche des femmes. Le monde est vaste, mais on a tout le temps.
Fabienne Saint-Pès, un jour dans le monde.
Il reste encore beaucoup à faire pour qu'Haïti atteigne la stabilité et le développement durable. Les acquis de la période de 13 ans qui s'achève devront être amplifiés. Et c'est pour tenir compte de cette réalité que le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris la décision de mettre fin au mandat de la MINUSTA le 15 octobre et d'établir la MINUSJUST, une mission plus réduite dont les opérations commencent le 16 octobre.
Voilà, les casques bleus, les derniers casques bleus quittent Haïti. Le drapeau de l'ONU, vous l'avez entendu sous cette musique, a été descendu. La fin officielle de la présence de la MINUSTA sur l'île cette fin de semaine, celle que vous venez d'entendre, s'appelle Sandra Honoré. C'est elle qui, pour encore une journée, est chef de cette MINUSTA en Haïti. Le départ des casques bleus après 13 ans de présence et pas toujours dans de bonnes conditions pour les Haïtiens. Bonsoir Eric Sauré.
Bonsoir.
Vous êtes Haïtien, vous êtes juriste, vous êtes politologue enseignant à Paris 13. Le départ des casques bleus, c'est quoi? C'est bon débarras? C'est attention danger, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, un peu d'étroit peut-être.
Un peu d'étroit. Alors d'abord pour les citoyens haïtiens, c'est un soulagement, mais un soulagement à demi-mot, hein, tout simplement parce qu'il y a encore une présence. Il faut dire que l'intervention s'expliquait par des raisons politiques objectives. Néanmoins, les citoyens haïtiens se sont rendus compte très très vite.
Il y avait des violences, pour expliquer aux gens.
Il y avait des violences dans la rue. Une logique
après
de guerre civile
après
le départ du président Jean-Bertrand Aristide, un départ qui a été considéré comme un coup d'État. Mm-hmm. Néanmoins, il y avait des raisons objectives pour essayer d'aider Haïti, mais en tout cas l'aider à se stabiliser sur le plan politique. Malgré tout, très vite cette mission a dévié. On a vu des violences exercées sur des enfants. On a
Plus que ça, des violences sexuelles,
oui,
même c'était extrêmement grave.
Exactement, et surtout le choléra, cette maladie que l'ONU n'a pas su gérer. Donc, et les Haïtiens ont toujours considéré que cette présence était une façon de mettre entre parenthèses la souveraineté d'Haïti. Ils ne l'ont pas acceptée et aujourd'hui, ils ne sont pas totalement satisfait parce que l'ONU n'est pas, il y aura pas de présence militaire. Néanmoins, il y a une présence à travers ce qu'ils appellent la MINUSJUST.
Ouais, alors, ça. Donc on va former des policiers.
On ne comprend pas tout. Alors, une assistance pour les policiers, une aide pour la justice, pour l'état de droit en Haïti. En fait, un soutien institutionnel. Encore une fois, une autre forme, autrement dit, une autre forme de protectorat. Ce qu'on ne comprend pas en Haïti, il y a suffisamment de juristes, il y a suffisamment, parce que c'est un pays qui existe depuis 200 ans. Depuis 200 ans, on fait des règles en Haïti. Les citoyens haïtiens savent faire. Mais il y a toujours une sorte de paternalisme qui considère qu'il faut aider systématiquement les citoyens haïtiens. Et malheureusement, les résultats ne sont jamais à la hauteur.
Alors justement, et on va y venir, et c'est intéressant, vous parliez de protectorat, entre guillemets, de sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis d'Haïti, parce que ce qu'on entend beaucoup dire depuis Haïti sur la présence de l'ONU, au-delà des incidents, des choses extrêmement graves dont vous parliez, c'est beaucoup d'arrogance, un sentiment de supériorité, une absence de connaissance du pays. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement sévères.
C'est ce qu'on vient de voir, oui. Alors, encore une fois, il faut nuancer, parce que c'est vrai que les élites haïtiennes tiennent ces propos. Mais si, encore une fois, la communauté internationale est obligée d'intervenir, c'est aussi parce que les élites politiques d'Haïti ne sont pas suffisamment à la hauteur. Malgré tout, l'ONU ne peut pas systématiquement intervenir, être là, sans qu'on ne voit les résultats.
Ce sont les élites qui contestent et le peuple dit quoi, lui?
Le peuple assiste. C'est toujours le problème. Depuis l'indépendance d'Haïti, ce sont les élites politiques qui n'y arrivent pas en termes de management, en termes de gestion, en termes de gouvernance. Et à ce moment-là, quand l'ONU intervient, c'est essentiellement pour sauver le pouvoir de ceux qui sont au pouvoir. Et le peuple, Que ne voit-il pas ? Il ne voit pas de changement dans sa vie de tous les jours. Il ne voit pas de changement sur le plan économique. Et surtout, il y a toujours cette injustice sociale qui est très dure et très difficile à supporter. Et là encore, il y a une sorte d'ironie. L'ONU, qui n'a pas su trouver une réponse judiciaire par rapport aux demandes de la population à la suite du choléra, va aider la justice haïtienne. Non, je pense que là, il y a quelque chose qui...
Là-dessus, l'ONU a présenté ses excuses en disant « Oui, c'est vrai, c'est de notre faute. »
Ce n'est pas suffisant parce que c'est un pays où la justice...
9000 morts. Plus de 9000 morts.
Exactement. C'est un pays où la justice n'a jamais été rendue correctement. Et là, quand c'est la communauté internationale qui participe de l'injustice, ce n'est pas compris. Et les citoyens, de base, en tout cas, ne le comprennent pas et n'accepteront jamais cette présence, quelle que soit la forme. Parce que là, la MINUSUS, c'est toujours la présence de la communauté internationale.
Alors, je vais vous poser la question probablement un peu trop ouverte, mais vous l'avez dit, effectivement, il y a toujours une présence de l'ONU, toujours une grosse présence d'ONG, par ailleurs, pour d'autres raisons aussi, parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Mais, pardon, pourquoi ça marche jamais en Haïti ? On a l'impression que ça marche jamais.
Alors, ça marche un petit peu, parce que c'est un pays qui est jeune, hein, 200 ans d'indépendance, ce n'est pas facile. Et puis, il y a toutes les bases de l'indépendance, c'est-à-dire un partage des richesses qui n'a pas eu lieu. Des élites qui sont un peu déconnectées, qui sont, oui, ce sont des élites occidentales, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Malgré tout, ce qu'on ne voit pas, c'est la diffusion de l'éducation, la diffusion de la culture, l'idée de faire vivre la devise républicaine, qui est aussi celle d'Haïti, liberté, égalité, fraternité, on ne voit pas ça à l'œuvre. Et donc, en réalité, au lieu d'une MINUSUS, il faudrait peut-être une mission pour... l'éducation pour aider les citoyens eh bien, à poursuivre l'apprentissage de la démocratie, l'apprentissage des règles. Et puis après, ça viendra. C'est un pays jeune, il faut leur laisser un peu de temps. Mais les citoyens haïtiens, je peux vous dire, en ayant fait l'indépendance d'Haïti en 1804, ils gardent encore cette espérance-là. C'est-à-dire que la liberté est possible et l'égalité aussi.
Sur l'éducation, par exemple, dont vous parliez à l'instant, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de certaines ONG qui sont arrivées d'ailleurs, notamment après le tremblement de terre de 2010. Est-ce que, je vais vous poser la question comme ça, est-ce que Haïti serait capable toute seule de s'occuper de l'éducation des enfants en Haïti? Alors, et de mettre en place quelque chose de stable?
En ce qui concerne les ONG, il y a un travail qui est positif. C'est-à-dire que si...
Vous ne les mettez pas dans le même sac que, casques bleus?
Non, les casques bleus, c'est autre chose. Les ONG ont un travail très positif. S'il n'y avait pas les ONG, il y a beaucoup de citoyens haïtiens qui ne pourraient pas manger. S'il n'y avait pas les ONG, il y a beaucoup de citoyens haïtiens qui ne seraient pas soignés. Avec les ONG, il y a beaucoup de choses auxquelles les Haïtiens accèdent parce que les élites d'Haïti ne partagent pas assez, notamment les élites qui ont des racines très profondes dans le colonialisme. Donc c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire c'est un problème d'injustice, c'est un pays qui a beaucoup d'injustice sociale, enfin c'est l'Amérique latine encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est toujours sur les mêmes sociétés. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Les ONG, bon, on peut considérer qu'elles concurrencent en réalité les élites traditionnelles d'Haïti qui n'en font pas assez pour leur pays, tout ça.
Pas qu'elles les concurrencent ou qu'elles les suppléent en fait.
Oui, exactement. Et si elles ne sont pas contentes, c'est parce que tout simplement, eh bien, ce qu'elles ne font pas, ce qu'elles ne font pas assez, ce qu'elles n'ont jamais fait, les ONG arrivent à le faire et les citoyens haïtiens le comprennent. Autrement dit, il y a une sorte de travail à faire ensemble entre les élites traditionnelles d'Haïti, les ONG, la société civile d'Haïti, puis le peuple. Et tout cela ensemble, ça peut donner quelque chose parce que c'est un peuple jeune, c'est un peuple où il y a toujours l'espoir. Même après le séisme, on a vu les gens avoir de l'espoir.
Le séisme, plus Mathieu derrière.
Exactement. Mais il continue de chanter, de danser, parce qu'en Haïti...
Vous êtes des gens résolument optimistes.
Oui. Il faut, l'avenir du monde est dans l'optimisme.
Lorsque je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire laissez-nous faire, et tant pis si au début ça marche pas fort,
en fait,
y compris politiquement, mais laissez-nous faire, laissez-nous partir.
C'est ma conviction. Ma conviction, c'est qu'il faut faire confiance aux citoyens haïtiens. S'ils ont fait 1804, ils peuvent faire autre chose. 1804, c'était pas facile. Sortir du colonialisme, sortir de 300 ans de domination, et ensuite payer une indemnité, c'était pas facile. Ils l'ont fait. Maintenant, alors, il y a le paternalisme, c'est sympathique. On intervient systématiquement quand ils se battent entre eux, mais la violence politique fait partie aussi du chemin démocratique. Parfois, c'est
donc
très dur de
laisser la violence politique sortir,
non,
vous dites?
Non, je ne dis pas de laisser la violence politique, mais elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est tangible. Mais considérez que dans ce pays, les progressistes doivent gagner. Et c'est avec la victoire des progressistes que ce pays... pourra trouver un chemin, devenir un État démocratique et montrer que son message très fort à travers l'universalisation des droits de l'homme reste un message d'avenir.
Et le président actuel, par exemple, Jouvenel Moïse, vous dites quoi, vous, de ce président ?
Il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. Et malheureusement, avec le départ, justement, de la
ministre, c'est le côté paradoxal.
C'est le côté paradoxal des choses. Eh bien, l'ONU, qui pense avoir stabilisé Haïti, risque de voir Haïti plonger à nouveau dans l'instabilité politique. Parce que là, le président fait face à une contestation de son pouvoir du fait du budget qui a été voté et qui n'est pas accepté.
Il y a une manifestation prévue demain vendredi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pratiquement tous les deux jours, il y a une manifestation. Et là, très très vite, cela peut déraper. Donc il revient au président qui fait l'apprentissage du pouvoir, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de faire des concessions. Le budget ayant été voté par le Parlement, il faut qu'il respecte les prérogatives du Parlement. Néanmoins, il faut qu'il écoute la société de telle sorte que justement l'ONU, la MINUSTAH en tout cas qui s'en va, ne reviennent pas trop vite. Pas trop vite, parce qu'on le sait, si ça dérape, ils vont revenir.
Mais est-ce que vous pensez que c'est un président stable, Jouvenel Moïse ? Est-ce qu'il peut apporter quelque chose en Haïti ? Ou est-ce que vous savez pertinemment qu'il va falloir encore de nouvelles élections, qui seront des élections contestées probablement ?
Il est jeune, il a des idées, après il faut qu'il ait du temps. Malheureusement, et ça fait partie de la vie politique haïtienne, l'opposition haïtienne ne laisse pas suffisamment du temps au pouvoir pour gouverner. Il a été élu pour 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne en Haïti, un président, c'est plutôt 3 ans et 7 mois. Donc, c'est précaire. Malgré tout, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il écoute. Ça, c'est important. À partir du moment où la rue se fait entendre, la rue ne gouverne pas, mais la rue peut conseiller. La rue peut envoyer des idées, et ces idées doivent être traitées, et c'est le travail d'un homme politique, c'est le travail d'un pouvoir sérieux. Autrement dit, il lui faut du temps, mais il faut aussi que dans le temps qu'il aura à prendre pour gouverner, pour apprendre son métier, il faut qu'il comprenne que son peuple souffre beaucoup, son peuple souffre énormément, et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apporte de l'espoir et qu'il apporte de nouvelles idées pour une nouvelle espérance.
Vous parliez des élites tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont partis d'Haïti. Est-ce que c'est leur rôle de revenir, selon vous, ou est-ce que maintenant, dans une nouvelle ère qui peut-être s'annonce ?
Beaucoup sont partis aux États-Unis, au Canada, et on voit de très très belles réussites. Même dans la politique. Et aujourd'hui, j'ai vu, il y a une personne d'origine haïtienne qui a été nommée vice-premier ministre au Canada. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et les citoyens haïtiens sont très contents. Il peut y avoir un retour. Malgré tout, il faut que les conditions soient réunies. Parce que même s'ils sont citoyens haïtiens à l'étranger, eux aussi ont besoin de la sécurité. Et s'ils sont partis, c'est parce que nous, en tout cas, qui sommes formés. Nous avons été victimes.
Vous êtes partis aussi.
Oui, exactement. Oui, et j'aurais aimé y retourner. Mais
vous n'y retournerez jamais, Éric Sauvé,
Je ne dis jamais, jamais.
Mais
pour y travailler,
je veux dire.
Pour y travailler, je peux y retourner. Mais je vais être sincère avec vous. Je suis français. Je suis français par le mariage. Et en Haïti, on a décidé que je ne suis plus haïtien. Je l'assume. Peu importe. Mais si mon pays d'origine fait appel à mes compétences, pourquoi pas ?
On parlait du départ des élites. Il y a aussi, parce qu'on écoutera un reportage tout à l'heure, vous resterez, si vous voulez, d'ailleurs, de ceux qui sont en train de taper en ce moment à la porte du Québec. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en train, en ce moment, de quitter Haïti, parce que ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'un ouragan chasse l'autre, et puis encore un autre. On voit bien que cette route est en train de se remplir de gens qui n'en peuvent plus, en fait.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir en Haïti, et dès que les gens quittent Haïti, quelle que soit leur situation, apatrides, réfugiés, économiques, etc., ils trouvent des issues à l'étranger. Et c'est pour ça qu'ils partent. C'est-à-dire que, alors qu'en Haïti, les élites économiques vivent très bien. Et elles ne partent jamais. Jamais. Et donc, c'est tout cela la difficulté. Mais ne vous inquiétez pas, même si ces citoyens repartent, ils ont toujours dans le cœur l'espoir de revenir et d'aider le pays. Parce que tout simplement, on y est né. Et on le porte en soi, où qu'on soit.
En tout cas, nouvelle ère, donc peut-être, avec le départ de Casque Bleu, c'est ce que vous souhaitez, vous, Éric Sauvé. On verra, puisque vous êtes un éternel optimiste, si vous avez raison. Et puis, restez avec nous, juste deux minutes, vous allez voir, on va aller les chercher, ces Haïtiens qui sont sur cette autre route de la migration, qui n'est pas une route facile d'ailleurs pour eux. Ce sera juste dans un instant. Voici IBI, I Wanna Be Like You.
Watching you move.
Allez, on retrouvera Florence Paracuello, c'est sous les radars, dans un instant, évidemment, dans Un jour dans le monde, mais je vous avais promis qu'on restait un peu en Haïti. On y est encore pour quelques minutes. On parlait à l'instant de ceux qui ont choisi de partir et je voudrais qu'on les suive. Parce que cette route, depuis Haïti jusqu'en Amérique du Nord, vous allez entendre jusqu'à quel point elle est semée d'embûches, elle descend avant de remonter. Elle descend d'abord vers l'Amérique du Sud, le Venezuela, le Brésil qui a cherché de la main d'œuvre au moment notamment des Jeux Olympiques. Et puis elle remonte ensuite quand faute de travail désormais et pour cause d'instabilité aussi, il faut repartir, remonter une partie de l'Amérique du Sud, toute l'Amérique centrale, avant les États-Unis devenus inhospitaliers sous Donald Trump. C'est comme ça que le Québec, lui, a ouvert ses portes pendant l'été. Bonsoir Pascal Guéricola.
Bonjour Fabienne.
Et bonjour. Des milliers d'Haïtiens, Pascal, sont venus frapper à cette porte. Vous avez rencontré deux de ces exilés. Ce sont deux femmes qui vous ont raconté leur parcours infernal.
Oui, c'est ici, l'école de Joseph Papineau.
Accompagnée du pasteur Isidore dans l'église évangélique à Pignon-sur-Rue à Montréal, Myrta et son mari vont visiter le collège où leur fille de 12 ans commence bientôt sa scolarité. Arrivée le 5 août au Québec, cette famille a vécu l'enfer. La mère et la fille ont pris le départ du sud du Brésil en août 2016 pour retrouver le père, déjà installé aux États-Unis. Un voyage en bus, en bateau et surtout à pied, parfois à 4, 10 ou 20 personnes. Un voyage où il leur a fallu traverser la jungle dans le nord-ouest de la Colombie en s'aidant de lianes pour escalader les arbres qui tombaient en chemin. 4 jours la peur au ventre, en se risquant dans les rivières, en escaladant des montagnes, sans manger ni se reposer, jusqu'à tomber d'épuisement, comme le raconte Myrta.
Nous étions presque arrivés au Panama, mais la nuit tombait, on ne pouvait pas voir pour traverser une rivière qui était devant nous. À un endroit, je me suis assise sur un rocher. Si une bête m'attaquait, elle m'aurait dévorée, car je n'avais pas la force de me défendre. J'étais incapable de me lever. J'ai dû interpeller un compagnon de voyage pour lui dire que j'étais incapable de me lever du rocher où j'étais assise. Je sentais que tous les os de mon corps étaient disloqués. J'étais comme paralysée par la fatigue. Il m'a aidée à trouver une grotte. C'est là que je me suis couchée pour passer la nuit. Je peux dire que Dieu m'a servi de couverture et de lit. Il m'a aussi protégée. Aucune bête féroce, aucun serpent ne m'a attaquée. Car même si une fourmi m'avait piquée, je n'avais pas la force de me défendre.
En chemin, les voyageurs découvrent les vêtements, les livres, les bagages que d'autres migrants ont laissés en chemin. Des morts aussi.
Des parents ont vu leur enfant mourir dans leurs bras faute de nourriture. Pour toute sépulture, ils n'avaient que leur valise. Des gens ont trouvé des cadavres dans des bagages.
Tout le monde qui peut aller à l'école.
Marjorie Villefranche, la directrice de la Maison d'Haïti qui offre des services à cette communauté à Montréal, entend ce genre d'histoire tous les jours.
Il y en a qui ont traversé le Brésil, il y en a qui ont été enfermés dans les containers. Après ça, à l'arrivée à la frontière américaine, il y en a qui ont été arrêtés, il y en a qui ont été incarcérés pendant des mois. Ça, c'est pour la traversée, sans compter ceux qui sont partis d'Haïti parce qu'ils vivaient des choses traumatisantes aussi. Donc. Mais c'est comme une dimension dont on ne parle jamais, la dimension psychologique et la santé mentale. Pour que ces gens-là se rendent compte qu'il faut qu'ils soignent ça aussi, ça prend tout un travail parce que pour eux, ça, c'est pas important parce qu'ils ont des choses importantes à régler. Il faut qu'ils se logent, il faut que les enfants soient à l'école, il faut qu'ils trouvent un travail, il faut qu'ils envoient de l'argent en Haïti, il faut qu'ils... Vous comprenez ? Tout est important sauf ça.
Lydie a justement le projet d'écrire un livre sur son périple. Partie de Manaus, dans le nord du Brésil, avec des milliers de dollars cousus dans son corsage, cette mère d'un fils de 7 ans et son mari ont bravé la traversée d'un bras de mer dans le nord de la Colombie.
On a pris un petit bateau qui peut prendre 15 personnes. Il y avait plus de 70 personnes. Il y avait de l'eau qui monte au beau milieu de la mer. Il y avait de l'eau qui monte. On avait eu tous peur parce qu'il y avait des gens qui étaient morts en traversant. Il y a des gens qui vomissent. J'ai vomi.
Quelques jours avant, Lydie avait tenu tête aux policiers vénézuéliens qui tentaient de les rançonner.
Discuter avec lui, ils nous ont relâchés 9h du soir. Et ils ont gardé les deux autres. Entre les 12 personnes, on a donné 1 500 $. Ils nous ont relâchés, mais les deux autres, ils sont passés un mois en prison. Les Guardias Venezuela arrêtent toujours les Haïtiens. Parce qu'ils disent que les Haïtiens travaillent beaucoup. Ils ont beaucoup de l'argent.
Bloqués au Costa Rica, puis passés au Honduras par la jungle, puis au Mexique, la famille s'est finalement retrouvée en prison aux États-Unis. Avant de rallier la Floride, puis le Canada, ultime terre d'espoir de Lydie.
J'avais écouté le ministre qui a dit que pour des gens qui ont peur, il est prêt pour recevoir ces gens-là chez eux. C'est pour ça que j'ai choisi de venir. Mais en venant ici, c'est autre chose. On a dû écouter d'autres paroles qu'on allait nous déporter. Je ne sais pas. On est là, on attend. J'ai choisi de laisser mon pays parce qu'on m'a battu, on voulait me tuer, j'ai laissé. J'ai choisi le Canada comme belle-mère, comme une seconde mère.
C'est vrai que passé l'euphorie des premiers jours, beaucoup d'Haïtiens déchantent. Certains, comme Lydie, ont choisi le Canada en le prenant pour un pays de cocagne. Il faut dire que les réseaux sociaux ont colporté beaucoup de fausses nouvelles au début de l'été. On laissait entendre que tous pouvaient facilement obtenir des documents d'immigration juste en se présentant sur un ancien chemin douanier à quelques kilomètres de la frontière officielle entre les États-Unis et le Canada. Pendant des semaines, 300 à 400 personnes se sont présentées là quotidiennement, en pleine campagne. Le gouvernement canadien a même dû envoyer des députés rétablir les faits dans des communautés culturelles en Floride ou en Californie. En arrivant ici, les migrants découvrent que rien ne leur garantit de pouvoir rester au Canada. Ils risquent la déportation si les autorités considèrent que le candidat au statut de réfugié ne subit pas de persécution dans son pays d'origine. Toutes ces démarches prennent du temps, au moins un an sans doute, et l'ampleur de cette immigration ponctuelle ralentit un système qui était déjà engorgé par des réductions de budget public.
Un reportage donc sur cette autre route des migrants signée Pascal Guéricola depuis Montréal. Merci beaucoup. Juste en un mot, Éric Sauré, des gens qui montent comme ça, cette route terrible qu'on vient de nous raconter, mais qui déchante d'y en avoir plus d'un, et surtout depuis ces derniers mois.
Oui, c'est, je dirais, un rêve qui a du mal à se concrétiser. Mais ils continueront de partir parce qu'il n'y a pas la stabilité politique, parce que les raisons économiques justifient ce départ.
Mais économiquement, qu'est-ce que ça représente toujours pour l'économie d'Haïti, tout cet argent qui vient de ceux qui s'installent aux États-Unis, au Québec et ailleurs,
voilà. 30% du budget haïtien. C'est-à-dire que sans cette manne financière, plus de 2 milliards 500 millions de dollars, eh bien l'État haïtien aurait beaucoup de difficultés. Et c'est pour cela que la diaspora représente un avenir malgré tout pour Haïti.
Et merci beaucoup de votre présence dans Un jour dans le monde. Il est 18h40 sous les radars avec Florence Paracuello. C'est dans un instant le feuilleton du jeudi. Retour sur les épisodes précédents, des nouvelles de ceux qui ont fait l'actualité avant de disparaître. Claude Guibald, c'est qui le héros du jour?
Alors à nouveau, un indice pour trouver. Moustache, si vous avez une idée. Vos réponses sur Twitter, hashtag UJDM.
J'ai l'impression de jouer à pyramide avec vous, c'est
moustache.
Terrible. Et puis nous sommes aussi à Francfort, à la Foire internationale du livre avec vous. Delphine Simon, vous allez nous plonger dans les coulisses des best-sellers.
Oui, la vedette cette année, c'est la France, invitée d'honneur. 200 auteurs de langue française font le déplacement à Francfort, une première depuis 30 ans.
Allez, merci, à tout à l'heure. Merci de nous écouter, Florence Paracuello vient d'arriver pile à l'heure. Power Hit Radio. Magic FM. Sous les radars, l'actualité internationale cachée dans les pages intérieures et dans le flot des sites internet que Florence Paracuello s'est déniché. On commence en Égypte ce soir, Florence, vers la Coupe du Monde de foot.
L'Égypte, qui vous le savez peut-être, s'est qualifiée dimanche en battant le Congo dans l'euphorie générale. Les pharaons n'avaient plus participé à une Coupe du Monde depuis 1990. Alors les supporters exultent et ils réclament le retour d'un joueur mythique du foot égyptien et africain qui a pris sa retraite. Il a 38 ans, c'est Mohamed Aboutrika. 5 Ligues des Champions, 4 Supercoupes d'Afrique, 5 championnats avec son club du Caire et surtout 3 Coupes d'Afrique des Nations. Tous les Égyptiens se souviennent de son but, de la victoire en finale en 2008 face au Cameroun. Celui qui lui fait la passe s'appelle Zidane, mais c'est pas le nôtre.
Oh bien Zidane, Zidane au centre. Aïe, aïe, Aboutrika. Aboutrika,
bon, je crois que c'est clair. Et si il revenait, lui qui n'a jamais participé à une Coupe du Monde, il n'a que 38 ans, et puis ça s'est déjà vu, on a bien rappelé Maradona en 94, ou le Camerounais, Roger Mia, au même âge, il avait 38 ans en 90. En plus, selon RFI, les proches d'Aboutrika affirment qu'il continue à s'entraîner. Alors pourquoi pas?
Pourquoi?
Eh bien d'abord parce qu'Aboutrika ne veut pas, et surtout, et c'est peut-être la raison de son refus, parce qu'Aboutrika est sur la liste des terroristes en Égypte depuis le mois de janvier. Le joueur a soutenu Mohamed Morsi et les frères musulmans à la présidentielle en 2012. Et tout ce qui touche de près ou de loin aux frères musulmans est réprimé par le régime du président Sisi. Mohamed Aboutrika a vu ses avoirs gelés, mais il reste une légende dans son pays, son portrait toujours dans les rues du Caire, sa présence dans les publicités et désormais ces milliers d'internautes qui veulent le voir revenir chez les pharaons.
Florence, aux États-Unis, Eminem est le héros des anti-Trump.
Le rappeur aux 15 Grammy Awards s'est déchaîné contre le président des États-Unis dans un freestyle enregistré et diffusé avant-hier pendant l'événement hip-hop de l'année, les BET Awards.
But we better give Obama props.
On ferait mieux d'être fiers d'Obama parce que ce qu'on a maintenant, c'est un kamikaze qui va sûrement provoquer un holocauste nucléaire. Et si des amateurs de ma musique le soutiennent, je dessine une ligne rouge. Vous êtes d'un côté ou de l'autre, pour ou contre. Et si vous n'arrivez pas à vous décider, à choisir, je vais vous aider.
I'll do it for you with this.
Le mot qui suit est censuré. Il dit fuck you avec un gros doigt d'honneur aux Trumpistes. C'est clair. Eminem a reçu de nombreux messages de félicitations, notamment des footballeurs en lutte aussi contre Trump et ses sympathies pour les suprémacistes blancs. Un autre rappeur, Snoop Dogg, s'est fendu d'une vidéo pour lui dire bravo. Ceux de ses fans, en revanche, qui penchent pour Trump, bah oui, parce qu'il y en a. Eux, ils ont prévenu. Dorénavant, ils boycotteront le rappeur.
Et voilà qui va sonner peut-être plus agréablement, Florence, aux oreilles de ceux qui nous écoutent. Écoute, si on n'est pas freestyle. Ah, c'est pas pareil.
C'est beau, on n'a pas tellement envie de parler.
Non, c'est vrai, mais il va falloir quand même.
Alors, c'est du Wagner, Lohengrin. Et cet opéra sera bientôt coproduit comme Aïda de Verdi et Salomé de Strauss par le Bolshoï de Moscou et le Metropolitan Opera de New York. Trois œuvres programmées de 2019 à 2022 dans ces deux institutions qui vont pour la première fois travailler ensemble. Elles l'ont annoncé cette semaine dans un moment de tension, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine. Nous le faisons parce que nous pensons que c'est nécessaire d'un point de vue artistique, dit Monsieur Ourin, le directeur russe, qui ne s'avance pas. Contrairement à l'américain, Peter Gelb, plus politique, je me souviens très bien, dit-il, du premier accord entre Gorbatchev et Reagan, et cela a commencé par un échange culturel.
Alors pourquoi pas ? Merci beaucoup Florence Paracuelos. Tous les jours, dans Un jour dans le monde, ça va être beaucoup moins, beaucoup plus freestyle. Tiens, on va dire, voici Ghost Poet et Freak Show.
I ain't left to see in Mars. I guess Westfield knows what I want. Feel funny if I die, still heavy. So I swipe left and figured out it's a freak show. Nothing came for following you. So easy to see ya. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Shut us down, nothing to see ya. We're all living here, confused, a lot, some, but we can't be. All this extra tour's giving me jizz, man. It's a nightmare, I'm screaming out. It's a freak show. Nothing came from following you. It's so easy to see you. Strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show.
Ghost Poet dans Freak Show sur France Inter.
France Inter.
Previously.
Dans l'épisode précédent.
Fabienne Saint-Pès.
Précédemment.
Previously.
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 Un jour dans le monde.
l'actualité en série le jeudi. Ses retours sur les épisodes précédents et coup de projecteur vers ceux qui ont quitté l'actualité parfois d'un coup la semaine dernière. Claude Guibal, dans le dernier épisode, vous nous avez rafraîchi la mémoire sur le sous-commandant Marcos. On va beaucoup moins loin là, visiblement.
On va beaucoup moins loin, on va un petit peu en Europe quand même, hein, mais dans le Nord. Alors j'ai un petit indice pour vous, je ne sais pas si vous avez trouvé. Je vous avais dit moustache tout à l'heure.
Vous m'avez dit moustache, c'est vrai.
Alors,
j'ai répondu, bah non, moi je sais, moi.
Non, pas du tout.
Non, pas Rochefort, non.
Alors, si je vous dis moustache, je vais vous dire autre chose. Là, on est le 5 octobre 83, ça vous dit toujours rien?
Oui, si, bien sûr.
Parce que ce soir-là, au JT de FR3, on pouvait entendre ceci, Fabienne.
Bonsoir, le prix Nobel de la paix pour un hors-la-loi, le Nobel pour Lech Walesa, le plus célèbre des Polonais avec le pape Jean-Paul II. Regardez ces images qui viennent tout juste de nous parvenir. 17h30 à Gdansk, l'arrivée à la maison de Lech Walesa. Il vient d'apprendre la nouvelle.
Alors avec Lech Walesa ce jour-là, Fabienne, c'est un prix Nobel très politique qui est en fait attribué parce que ce qui est salué, c'est eh bien son combat pour le syndicalisme libre, pour les valeurs de la démocratie dans une Pologne qui est alors dirigée par le général Jaruzelski, vous vous souvenez, avec ses grosses lunettes noires. On est encore, Fabienne, à ce moment-là, en pleine guerre froide.
Et c'est vrai que Walesa est le symbole de ces années-là, du moment d'effondrement du bloc communiste. En fait.
Alors c'est vrai que cet électricien des chantiers navals de Gdansk, eh bien il incarne alors une forme de résistance pacifique qui va vraiment fasciner le monde occidental. C'est l'époque des grandes grèves ouvrières où il apparaît comme un artisan du dialogue. Ces grèves dont le gigantisme, la détermination vont vraiment impressionner. Alors ces grèves, elles sont aussi portées par la voix des intellectuels polonais comme Geremek, Mazowiecki. Elles sont aussi très médiatisées parce que les ouvriers ont placardé partout sur les grilles des chantiers des posters du pape Jean-Paul II qui était alors une véritable rockstar et tout ça pour attirer sur eux l'attention du monde.
Et puis tout va s'accélérer en 89 à la chute du mur.
Oui, alors tout bascule à alors, écoutez d'ailleurs ce que dit Bernard Pivot, qui se souvient à ce moment-là être allé interviewer Lech Walesa en douce 2 ans plus tôt.
J'avais dû me cacher pour aller en Pologne, pour aller à Gdansk, en se cachant, en rasant les murs, en semant la police politique de Pologne. C'était il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, Walesa, maintenant, on peut aller le toucher, lui parler, on peut l'inviter, on peut faire ce qu'on veut. L'accélération de l'histoire est extraordinaire.
Ben oui, est-ce que Pivot n'imagine pas encore, d'ailleurs, au moment où il parle, c'est que l'année d'après, on est en 90, Walesa va devenir le président de la République polonaise.
Absolument. Et s'il a effectivement entraîné le pays vers la transition démocratique, Walesa, président, n'a pas laissé que de bons souvenirs en Pologne. Très conservateur, très catholique. Il a vraiment déçu la jeunesse. Il a aussi déçu ses compagnons de route en adoptant, eh bien, des politiques économiques néolibérales. Libéral. Avec Solidarnosc, c'est alors la rupture. Et puis, il y a ces rumeurs qui commencent à courir sur sa possible collaboration avec le régime communiste dans les années 70. Walesa, espion, sous le nom de code Bolek. À l'époque, Walesa s'insurge et il dénonce un coup monté.
Il y a tellement de falsifications évidentes là-dedans. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour le voir.
Eh bien, le problème, Fabienne, c'est que l'enquête en temps classé a finalement été rouverte et ces professionnels, ces experts, ces graphologues ont été amenés à se prononcer. Et en janvier dernier, ils avaient une certitude, Lech Walesa a bien été un agent du régime communiste. Alors, pour le principal intéressé, ces accusations sont l'œuvre de l'actuel gouvernement polonais, ultra-conservateur, populiste, qui cherche, dit-il, à diviser la nation polonaise en le discréditant. Vous savez que la Pologne aujourd'hui est coupée en deux. Il y a un grand mouvement de solidarité, de protestation, pardon, anti-gouvernementale, et c'est le plus important, hein, vraiment, depuis Solidarnosc. Et dans ces manifestations, où j'étais encore il y a 2 semaines, hein, vous l'entendez derrière moi, eh bien, les portraits de Walesa sont brandis absolument partout, à côté du drapeau européen. Walesa, c'est aujourd'hui une véritable icône, et il vient de le dire, face aux menaces qui pèsent sur l'avenir de son pays, il est désormais prêt à revenir dans l'arène politique.
Donc à suivre, et peut-être que vous regretterez, Claude, de l'avoir mis sur la liste de ceux dont on n'a plus de nouvelles, finalement. Merci beaucoup, et à jeudi prochain.
France Inter, un jour dans le monde.
Et comme promis, nous partons pour Francfort, rejoindre Delphine Simon ce soir. Francfort où se tient la foire internationale du livre. La France, vous le savez, est invitée d'honneur. Emmanuel Macron y a fait un tour en début de semaine. Ouverture au public samedi, mais les coulisses sont fondamentales. Cette foire, c'est la plus grande foire du livre au monde. Et ce qui s'y joue détermine toute votre année littéraire et celle des éditeurs aussi. Delphine, en direct avec nous depuis l'Institut français qui vous accueille. C'est bien ce que vous allez nous raconter. La foire, ça commence bien avant d'arriver à la foire.
Oui, certains n'attendent pas l'ouverture. De très gros contrats se négocient dans les grands hôtels dès la descente du train. C'est là que sont logés les agents et les éditeurs. L'éditrice Héloïse Dormesson est une habituée.
On est dans un hôtel qui s'appelle le Hessischehof. Et donc, les responsables des droits, les gens qui achètent et qui vendent des droits, se retrouvent dans le lobby et dans les salons. Et comme vous le voyez, on est assis quasiment sur les accoudoirs de canapé. Il y a un monde fou. Tout le monde préfère cette espèce de frénésie et se bousculer dans ces lobbies. On peut dire que la Foire de Francfort, c'est l'équivalent pour la littérature et pour l'édition du Festival de Cannes pour le cinéma.
Oui, voilà, Francfort, un rendez-vous incontournable pour sa toute jeune maison d'édition fondée en 2004 avec son mari Gilles Cohen-Solal. Dans leur catalogue, un auteur phare, Tatiana de Ronay. Son roman, elle s'appelait Sarah, s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde. De quoi assurer l'avenir de sa PME.
La vente en librairie dans le monde entier, c'est un peu effrité. Ce qu'on vendait à 80 000 exemplaires, aujourd'hui se vend peut-être plutôt à 50 000. On ne peut plus parier sur des grosses ventes en librairie comme autrefois. En revanche, les droits étrangers se sont amplifiés et développés. Francfort, ça a un effet démultiplicateur. Justement, nous, on va publier un prochain roman de Tatiana de Ronay. On a vendu les droits aux États-Unis, en Norvège et aux Pays-Bas, là, dans la semaine qui a précédé Francfort. Et on espère bien que, fort de ces trois sessions, tout le reste du monde va suivre.
Voilà, depuis hier, calculette à la main, agents et éditeurs enchaînent ici les rendez-vous dans cette gigantesque foire, grande comme un aéroport. On fait des kilomètres à pied entre une maison d'édition qatari et un éditeur américain. Tout se négocie ici. La grande littérature, comme le livre de cuisine, constate le président du Centre National du Livre, Vincent Monadet.
C'est ce qu'on appelle la ruche, c'est-à-dire que là, vous avez des éditeurs qui, toutes les 20 minutes, 30 minutes, ont un rendez-vous avec un confrère étranger, un collègue, pour vendre des droits ou acheter des droits de livres étrangers à traduire. En France, il se fait à peu près autant de cessions de droits, c'est-à-dire qu'on vend à l'étranger, que de livres qu'on traduit. On est encore aujourd'hui la deuxième langue la plus traduite dans le monde, la langue française, derrière l'anglais bien sûr, et c'est vraiment effectivement à Francfort que tout se fait.
Delphine, j'ai une question. Deuxième langue la plus traduite, on vient de l'entendre à l'instant, derrière l'anglais, qui nous achète en fait ?
C'est la Chine, notre premier marché mondial, loin, très loin, devant l'Italie et l'Espagne. C'est aussi vers le chinois que les livres français sont le plus traduits, particulièrement appréciés chez eux, la BD, mais aussi les albums jeunesse, ce qui figure précisément sur la liste de courses de cet acheteur chinois.
Nous publions une vingtaine de livres d'images en trois dimensions, des pop-up. 80% sont des titres français. Leur graphisme est vraiment unique.
Un engouement qui porte tout le secteur, confirme Edwige Pasquier chez Gallimard Jeunesse.
Pour nous, la Chine est la première source de revenus à l'étranger. C'est tout un marché qui s'est développé et je vois aujourd'hui des albums à la littérature. Nous avons pratiquement vendu tout ce que nous pouvions vendre à des Chinois.
Et la BD n'est pas en reste, particulièrement en Allemagne où Astérix se vend aussi bien, voire même mieux qu'en France. Une statue géante du petit Gaulois trône au beau milieu de la foire.
Et la France invitée d'honneur, une dernière chose Delphine, comment les auteurs français sont perçus outre-Rhin ?
Avec près de 300 titres de littérature française, ils sont très très bien perçus. Michel Houellebecq est une vedette ici, aussi lue en Allemagne qu'en France. Il y a aussi Virginie Despentes, Emmanuel Carrère ou Anna Gavalda. Le polar français n'est pas en reste, à l'image de Michel Bussy qui assure la promotion de son tout dernier roman à Francfort.
Un de mes premiers romans, c'est vraiment la Normandie, puis après il y a eu la Corse, la Réunion. J'espère vendre un petit peu ça aussi à l'étranger, c'est-à-dire de vendre un voyage en France pour le prix du livre. Je m'aperçois aussi que les éditeurs étrangers, à l'exception de l'Allemagne par exemple, sont souvent des plus petits pays que la France, grecs, estoniens. Eux ont souvent des maisons d'édition fragiles. Faire traduire un auteur français, c'est un coût, et donc ça leur semble très lointain, presque mythique. Et c'est vrai, le fait de venir à Francfort, de voir l'auteur et de prendre une photo, pour eux, c'est une reconnaissance importante, parce qu'ils ont souvent cette impression d'essayer d'amener une culture dans un pays où c'est moins facile, où il y a moins de librairies qu'en France. La France reste quand même une espèce d'Eldorado. Il y a un modèle français, ça j'en suis sûr. Ouais.
Voilà, reste à savoir s'il y aura un effet Francfort. On le saura dans quelques mois, Fabienne.
Eh bien, merci beaucoup Delphine Sinemont, avec Eric Audra, en direct de Francfort en français, donc la Foire du Livre de Francfort qui se poursuit jusqu'à dimanche.
La chronique du journal Le Monde ce soir avec Corinne Laine depuis San Francisco. Bonsoir Corinne. Corinne, est-ce que Corinne nous entend? Ce serait bien si Corinne nous entendait, Corinne, en direct avec nous.
Je vous entends très bien. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir à vous Corinne. L'affaire Hervé Weinstein, nous la suivons bien sûr nous aussi depuis la France. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est jusqu'à quel point depuis chez vous, on est désormais dans un changement culturel qui vient bien au-delà d'Hollywood.
Oui, c'est un déluge d'accusations depuis quelques mois et dans tous les milieux. La télévision a eu son scandale Fox News, vous vous souvenez. Le PDG de la chaîne conservatrice a dû démissionner, ainsi que l'animateur vedette Bill O'Reilly. Mais dans l'affaire de Hollywood, ce qui est particulièrement odieux, outre les agressions, c'est que les femmes croyaient que Harvey Weinstein était de leur côté. Il avait manifesté en janvier avec la Women's March, il avait promis 100 000 dollars au planning familial, menacé par les républicains. Il avait doté une chaire à l'université de Rutgers au nom de Gloria Steinem, l'une des icônes féministes des années 70. Et bien sûr, il avait contribué à la campagne de Hillary Clinton. D'où la consternation des féministes traditionnelles comme Meryl Streep. L'actrice a réagi assez tard, manifestement abasourdie.
Corinne, c'est vrai qu'on se plaint aussi beaucoup de sexisme dans la Silicon Valley, vous êtes ou pas loin?
Oui, les plaintes en justice se multiplient là aussi pour harcèlement ou pour discrimination. En juin, le PDG de Uber a dû démissionner après le témoignage d'une ancienne ingénieure. Suzanne Fowler, c'est son nom, avait dénoncé la tolérance pour le sexisme qui règne dans la compagnie. Autre exemple, Hélène Pao, une surdiplômée, elle aussi. Il y a 5 ans, elle avait porté plainte contre l'un des grands cabinets d'investissement de la Silicon Valley. Malgré ses compétences, elle se voyait systématiquement doublée par ses collègues masculins. À l'époque, beaucoup lui avaient reproché de porter l'affaire sur la place publique au lieu d'accepter un règlement financier. Et finalement, elle avait perdu son procès. Aujourd'hui, elle fait figure de pionnière. Elle vient de publier un livre. Elle est adulée par les nouvelles féministes qui sont beaucoup plus radicales que leurs aînés. Et elle pense que si son procès avait lieu maintenant, elle le gagnerait certainement. Les mentalités ont évolué. Les géants des technologies font un effort pour embaucher des femmes. Sur le fond, peu de progrès ont été accomplis, disent les féministes, mais ce qui a changé, c'est que nous parlons publiquement.
Merci beaucoup, Corinne Laine, en direct avec nous depuis San Francisco.